France Culture.
Le journal est présenté par Stanislas Vazak. Bonsoir Stanislas.
Bonsoir Quentin, bonsoir à tous. Deux morts, trois blessés graves dans un attentat antisémite à Manchester le jour du Yom Kippour. Un homme a attaqué les personnes présentes devant une synagogue, avant d'être abattu par les forces de l'ordre. Nous serons sur place dans un instant. L'Europe se mobilise contre la flotte fantôme russe depuis le sommet de Copenhague. Emmanuel Macron annonce une réunion des chefs d'état-major européens. Mobilisation en recul pour la deuxième journée nationale d'action syndicale. Plus de 600 000 manifestants selon la CGT contre 1 million il y a 15 jours. Dans ce journal, reportage dans le cortège parisien. Maire, pourquoi faire ? Notre rendez-vous hebdomadaire consacré aux élections municipales après ce journal à 18h15. Aujourd'hui, la décentralisation. La piste de l'attentat antisémite ne fait aucun doute ce soir à Manchester. Un homme a tué deux personnes ce matin devant une synagogue du quartier de Crumpsall dans le nord de l'agglomération. Trois autres personnes ont été grièvement blessées. La police anglaise a confirmé tout à l'heure que les forces de l'ordre avaient abattu l'assaillant. Deux autres personnes ont été arrêtées. Un attentat commis avec un véhicule et une arme blanche le jour du Yom Kippour, la fête du grand pardon pour la communauté juive. Gaëlle Joly, vous êtes notre correspondante au Royaume-Uni et vous vous trouvez sur place à Manchester devant la synagogue de Eaton Park.
Oui, je me trouve sur Middleton Road, c'est la rue où se trouve la synagogue, mais impossible d'avancer plus. Les médias, comme la population, nous sommes parqués derrière des rubans jaunes et personne ne peut passer. Les agents de police ont été déployés partout dans le quartier et certains membres de la communauté juive sont venus prier ici tout à l'heure. Alors la police a déclaré que c'était un acte terroriste. Le suspect a été abattu, il portait sur lui une veste qui ressemblait à un gilet explosif et les démineurs sont intervenus. Les forces de l'ordre ont remercié les nombreux fidèles qui se sont interposés face à l'assaillant. La police croit connaître l'identité du meurtrier, mais ne l'a pas encore confirmé. Deux personnes ont été interpellées. Keir Starmer préside en ce moment à Londres une réunion d'urgence. Et il a annoncé des renforts d'effectifs de police devant les synagogues partout dans le pays.
Gaëlle Joly, envoyée spéciale à Manchester, le Premier ministre britannique Keir Starmer qui se dit horrifié par cet attentat, lui qui a écourté sa présence au sommet de la communauté politique européenne à Copenhague pour rentrer en urgence au Royaume-Uni. De son côté, l'Union européenne dénonce un attentat épouvantable, l'UE qui appelle à combattre l'antisémitisme sous toutes ses formes. Les dirigeants européens qui sont actuellement à Copenhague pour un sommet de la communauté politique européenne, la CPE, qui regroupe pratiquement tous les pays d'Europe. Au cœur des discussions, la menace russe, symbolisée par cette flotte fantôme de navires qui permet à Moscou d'exporter son pétrole en contournant les sanctions internationales. La marine française a arraisonné le week-end dernier l'un de ses navires au large de Saint-Nazaire, un pétrolier soupçonné d'être impliqué dans le survol de drones dans le ciel danois la semaine dernière. On retrouve à Copenhague Maxence Lambrecht. Bonsoir.
Bonsoir.
Maxence, Emmanuel Macron a dévoilé tout à l'heure une nouvelle stratégie européenne pour lutter contre cette flotte fantôme russe.
En effet, cela commence par un constat d'échec. Les sanctions ont eu très peu d'effet. La Russie gagne, selon la France, grâce à son pétrole, 35 milliards de dollars par an. 600 millions de barils circulent en toute impunité, ou presque. Emmanuel Macron y voit l'un des moteurs de la guerre.
Il y a environ 800 à 1000 bateaux qui opèrent dans le cadre de cette flotte fantôme, sous pavillon souvent approximatif, dirais-je, et qui contribue à l'effort de guerre russe puisqu'il finance 35 à 40% de l'effort de guerre de la Russie.
Alors la nouvelle stratégie, c'est une politique d'entrave, à raisonner ces navires, vérifier leur cargaison. Les Européens se demandent en effet si ce ne sont pas aussi les bases de lancement des fameux drones, freiner leur progression donc pour tenter d'enrayer la machine russe.
De manière très concrète, dans les prochains jours, nos chefs d'état-major, en coordination avec l'OTAN, dans le cadre de la coalition des volontaires, se réuniront pour bâtir des actions communes dans les prochaines semaines pour avoir cette politique d'entrave à l'égard de la flotte fantôme.
Les 35 pays de la coalition des volontaires appelés donc à se mobiliser, sachant que les Russes changent régulièrement les noms et les pavillons de ces navires pour échapper au contrôle. Dans le 19e paquet de sanctions en cours d'examen, les Européens prévoient aussi de s'attaquer au bout de la chaîne, aux raffineries situées en Inde et en Chine.
Maxence Lambrecht en direct de Copenhague avec Benjamin Troncin pour les moyens techniques. Le bilan des violences la nuit dernière au Maroc s'est encore alourdie. 3 morts, annonce le Premier ministre marocain. Un peu partout dans le pays, des milliers de jeunes manifestent pour réclamer de meilleurs services de santé et d'éducation, alors que le pays est en chantier pour accueillir la Coupe du Monde de football. Au Maroc, comme au Népal ou à Madagascar, c'est la génération Z qui descend dans la rue. Les jeunes, nés dans les années 2000, ils manifestent sous la bannière Gen Z 212. 212 étant l'indicatif téléphonique du Maroc. Le reportage à Casablanca de François Hume Ferkataji.
Les rues de Casablanca sont calmes au cœur de l'après-midi. Comme depuis une semaine maintenant, c'est en toute fin de journée que le mouvement Gen Z 212 donne rendez-vous. Sophia, une jeune femme de 19 ans, au chômage comme un tiers des 15-24 ans, soutient le mouvement sans y croire totalement.
Même si je sors là, dans la rue, je sais que ça ne va pas changer.
Elle salue toutefois sa génération qui a décidé de se mobiliser.
Nos parents, ils ont choisi un autre chemin, généralement de ne pas parler, de se taire.
Santé, accès à l'éducation, liberté d'expression.
On ne demande pas du luxe, on demande que des droits basiques, simples. J'espère que ça va changer un jour.
À Tanger, au nord du pays, les jeunes sont également nombreux à garnir les cortèges du soir.
Nous marchons pour une bonne éducation, une bonne santé, une bonne vie.
Ce jeune homme, employé dans un centre culturel, a été arrêté à 2 reprises. Au téléphone, il raconte qu'un policier l'a frappé dans le ventre, puis dans le dos, avant de l'emmener au poste où il est resté 48 heures dans une petite cellule avec 17 autres personnes. De nombreuses personnes étaient blessées, l'un d'eux saignait de la tête, dit-il. Ce soir, Gen Z 212 a appelé à 13 nouveaux sit-in pacifiques à travers tout le pays. Mais hier, la tension est montée d'un cran. 3 personnes, qualifiées d'émeutiers par les autorités, ont été tuées par les gendarmes près d'Agadir.
François Hume Ferkataji depuis Casablanca. Confirmation par les chiffres ce soir, la mobilisation est en recul pour cette 2e journée nationale d'action à l'appel de l'intersyndicale. La CGT annonce près de 600 000 manifestants, elle qui en avait revendiqué 1 million le 18 septembre dernier. C'est à Paris que les leaders syndicaux ont défilé cet après-midi. Le Premier ministre Sébastien Lecornu tente de les rassurer sur ses intentions en promettant quelques mesures comme l'amélioration de la retraite des femmes ou des baisses d'impôts pour les revenus modestes. Laurine Benjibria, vous êtes dans le cortège parisien. Ces mesures sont loin de convaincre les responsables syndicaux.
Oui, derrière leur sourire affiché pour les caméras, les leaders des 8 organisations de travailleurs ne cachent pas leur agacement, à l'image de la secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet.
Elles sont non seulement insuffisantes, mais totalement hors sujet.
Des mesurettes taclent également la chef de file de la CFDT. Marie-Lise Léon dénonce un coup de com' qui ne répond pas aux attentes de l'intersyndicale.
C'est quand même des vieilles recettes qu'on entend depuis 20 ou 30 ans et ça ne présage pas la rupture qui est profondément attendu par les travailleurs et les travailleuses.
À commencer par la piste de travail qui concerne les couples payés légèrement au-dessus du SMIC. Matignon réfléchit à une baisse d'impôts pour eux, mais la leader du premier syndicat français rappelle que cela ne concernera qu'une minorité de Français.
Le sujet n'est pas tellement de savoir combien une personne au SMIC paye d'impôts, c'est combien de temps elle reste au SMIC. Et donc comment on fait en sorte qu'elle puisse évoluer.
Autre mesure annoncée par le nouveau Premier ministre, une amélioration des retraites des femmes, plus particulièrement des mères de famille. Mais là aussi, Julie, une jeune chercheuse de 26 ans croisée dans le cortège, juge l'annonce insuffisante.
Pourquoi est-ce que c'est pas toutes les femmes? Puisqu'on sait qu'il y a des différences salariales et que ça se répercute sur les retraites. Pas oublier toutes les autres femmes qui sont pas mères, quoi. Ça aide un peu, mais ça règle pas le souci en général de l'inégalité salariale entre femmes et hommes.
Ces annonces ne suffisent donc pas à calmer la colère des manifestants croisés aujourd'hui dans le cortège.
Laurine Benjibria dans la manifestation parisienne. Et pendant ce temps-là, à l'Assemblée, les députés renouvellent leurs instances après les 6 vice-présidences hier, avec 2 postes pour le Rassemblement national, place aujourd'hui aux commissions permanentes. Le socle commun, les partis de la coalition gouvernementale, récupèrent toutes les présidences de commissions, sauf celle des finances, qui restera présidée par l'insoumis Éric Coquerel. On retrouve à l'Assemblée Adrien Toffolet, bonsoir.
Bonsoir.
Adrien, ce vote en faveur du socle commun n'aurait pas été possible sans la bienveillante neutralité du Rassemblement national.
Avec les voix même du Rassemblement national, tout est allé très vite. Des candidats élus à l'issue d'un seul tour, le RN n'a présenté aucun candidat aux présidences des 8 commissions permanentes et il a voté à chaque fois pour les candidats du socle commun. Il y a un loup, crie à l'unisson toute la gauche. Un accord entre le socle commun et le RN pour se partager les postes. Éric Coquerel, député LFI de Seine-Saint-Denis.
Tout cela me fait dire que ce qui, depuis quelques jours, se faisait en prenant l'aspect d'une représentation démocratique, pluraliste, incitant Yael Braun-Pivet à proposer deux postes de vice-président au Rassemblement national, en réalité cachait un accord beaucoup plus vaste. Et que ce soir, nous sommes sur des accords politiques et de courte échelle entre le socle commun et le Rassemblement national.
Dans le camp présidentiel, on s'en défend, Ludovic Mendès, député Renaissance de Moselle.
Il y a eu une stricte application du règlement de l'Assemblée nationale. Il n'y a aucun accord qui a été passé avec le Rassemblement national.
Le règlement de l'Assemblée prévoit que seule la commission des finances doit revenir obligatoirement à l'opposition. Il n'est donc pas anormal, estime le Mosellan, que la gauche ait perdu la commission des affaires économiques et la commission des affaires culturelles, gagnée en 2024 en profitant à l'époque de divisions au sein du bloc central. Pour lui toutefois, le RN qui vote pour les candidats du socle commun aujourd'hui, c'est peut-être un baiser de Judas qui cache autre chose.
C'est leur choix à eux, c'est leur tactique, ce qui leur permet de créer une nouvelle polémique, sachant que nous sommes en train de discuter pour essayer de trouver un accord le plus large possible pour nous rassembler potentiellement avec les socialistes. Donc je pense que ça l'intéresse aussi pour créer la zizanie dans les discussions que nous avons actuellement.
Nous aurons donc un autre sujet de discussion avec le Premier ministre demain, souffle un député socialiste qui attend toujours un signal fort de Sébastien Lecornu sur le budget, sans grand espoir.
Adrien Toffolet en direct de l'Assemblée avec Benjamin Thuau pour les moyens techniques. La société des grands magasins a déclenché une véritable tempête hier en annonçant un partenariat avec Shein. Pour la première fois en France, le géant chinois de l'ultra fast fashion en ligne va ouvrir de véritables points de vente dans l'Hexagone. Ils seront installés dans des grands magasins réputés comme le BHV à Paris ou bien des galeries Lafayette en province. Une véritable révolution pour Shein qui vend d'abord ses vêtements à la qualité discutable sur Internet ou dans des boutiques éphémères. Annabelle Grelier, bonsoir.
Bonsoir Stanislas.
Les professionnels français du prêt-à-porter dénoncent une concurrence déloyale.
Oui, alors ce soir, on peut même parler de haute trahison, de prédation. La Fédération française du prêt-à-porter féminin, par exemple, accuse la SGM, le groupe qui exploite le BHV, de cracher à la tête de leurs collaborateurs, de leurs clients et de toute la mode française. Écoutez son président, Yann Rivoilan.
Je suis choqué qu'une personne accepte de servir de cheval de Troie à Chine. Je suis extrêmement triste que pour tous les collaborateurs et pour tous les clients du BHV qui se retrouvent en fait confrontés à la déferlante de produits jetables. Et je ne suis pas étonné parce que, en fin de compte, c'est la stratégie de Chine de pouvoir à la fois donner une image plus premium de leurs produits jetables et de trouver un nouveau relais de communication à travers la capacité à pouvoir se mettre en boutique. Car n'oublions pas, dans le BHV, tout ce qu'ils recherchent avant tout de l'image, parce que le chiffre d'affaires qu'ils vont le faire est extrêmement faible versus le chiffre d'affaires qu'ils font en ligne.
Alors du côté de la SGM, autre ambiance, l'arrivée de Shein dans leur magasin est vécue comme une victoire pour les clients et pour le commerce, nous explique Karl-Stéphane Contandin, le directeur général du BHV.
On s'est battu pour les faire venir en France, dans nos magasins. On est fiers de le faire et surtout, on est fiers d'incarner un changement de modèle puisque pour Shein, il ne s'agit pas simplement d'envoyer des colis qui seront vendus par un exploitant en France. C'est un modèle de commerçant qui joue avec les mêmes règles du jeu que n'importe quel autre commerçant. C'est-à-dire que Shein, demain avec nous, va nous livrer des produits pour lesquels on a une traçabilité et une conformité la plus totale. On a des bureaux de contrôle qui viennent s'assurer de cette transparence-là. On va créer 200 emplois dans un premier temps. On aura une fiscalité française. Et non, je ne fais pas rentrer le loup dans la bergerie. Il faut aujourd'hui faire venir le client en magasin, en centre-ville. C'est une marque qui a 25 millions de consommateurs en France. Si on ne sait pas répondre à la demande des clients, alors on mène un combat qu'on ne peut pas gagner.
Et menace de représailles déjà. C'est ce soir, le groupe Galeries Lafayette, qui ne détient plus ses magasins, annonce pourtant qu'il compte faire jouer les contrats d'affiliation qui le lient à SGM pour empêcher la venue de Shein en France.
Annabelle Grelier, merci. On termine ce journal avec une nouvelle version illustrée du célèbre Terre des Hommes d'Antoine de Saint-Exupéry. Version signée Riyad Satouf, l'auteur de la série L'Arabe du Futur. Elle sort en librairie aujourd'hui chez Gallimard. Riyad Satouf signe 150 dessins inédits. Lui qui voit dans Terre des Hommes un texte fondateur qu'il n'a cessé de relire depuis l'adolescence. Cette version illustrée perpétue en fait une très ancienne tradition française, comme nous l'explique Nicolas Asvisio, expert en livres anciens et modernes.
Dès le XVIIe siècle, il y a la volonté de faire illustrer par de grands artistes des grands textes, si on pense notamment aux Fables de La Fontaine, illustrés par Gustave Doré, par Chagall, Picasso qui a illustré notamment les Contes de Buffon, le livre illustré par Matisse et qui s'appelle Jazz, même des artistes qui étaient spécialistes, graveurs. et des maisons d'édition qui étaient spécialisées dans l'illustration de textes classiques et qui en faisaient vraiment le cœur de leur commerce, notamment des maisons comme la librairie Chéroux, comme les éditions Ferenzi.
Aujourd'hui, en vente, c'est quelque chose qui est particulièrement recherché.
De façon générale, le livre illustré est encore un domaine très collectionné. Et c'est également dans la volonté de Gallimard qui ici produit aussi, en plus de cette édition, un tirage de tête, donc un tirage limité, numéroté, et qui est accompagné d'un tirage d'art signé par Riyad Satouf au prix de 800 euros. C'est cette volonté-là aussi de toucher les collectionneurs et les amateurs de livres illustrés, parce qu'effectivement, on considère que ces livres illustrés-là sont vraiment des jalons majeurs de l'histoire de nos livres.
Propos recueillis par Éric Chavroux. Un mot du temps demain, le retour de la pluie sur le nord du pays. Au sud, le soleil s'imposera. Les températures minimales iront de 3 à 15 degrés. L'après-midi, il fera entre 14 et 25 degrés. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Jean-François Braun à la technique Paul Guigues.
France Culture, élections municipales 2026. Maire, pourquoi faire ?
Cinquième épisode de notre série hebdomadaire consacrée aux enjeux des municipales de mars prochain. Aujourd'hui, la décentralisation, c'est l'une des priorités de Sébastien Lecornu. Quelques jours après sa nomination, le Premier ministre a promis un grand acte de décentralisation en demandant aux élus locaux de lui faire des propositions d'ici la fin octobre. L'Association des maires de France lui a répondu ce matin, car cette décentralisation, les maires sont nombreux à l'appeler de leur vœu, mais pas à n'importe quel prix. C'est un reportage de Rosalie Lafarge.
Chaque élu de chaque commune, ou presque, a des exemples en tête d'un projet ralenti, voire arrêté à cause d'une centralisation jugée souvent excessive. Jules Chamou est maire adjoint en charge des finances au Vigan, commune de 4000 habitants dans les Cévennes.
Territoire qui est très éloigné des principaux pôles urbains. On est à une heure de Montpellier, une heure et demie de Nîmes.
Depuis le début du mandat, l'équipe municipale porte deux projets de nouvelles casernes, une de gendarmerie, une de pompiers.
On a démarré en 2020, on est aujourd'hui en 2025. Et on ne peut toujours pas aboutir sur ces projets-là parce qu'il y a toujours des études supplémentaires à faire, des complexités administratives. Il faut trouver les bons terrains, il faut qu'ils fassent la bonne taille, il faut qu'il y ait les bonnes normes. Il vous faut l'autorisation normée du ministère de l'Intérieur pour la partie gendarmerie, du service départemental d'incendie et de secours pour les pompiers. Mais il vous faut aussi les autorisations urbanistiques avec les avis à émettre de la part de la direction départementale des territoires et de la mer, en préfecture, éventuellement de la DREAL sur d'autres normes. Donc direction régionale, environnement, aménagement, logement, donc à nouveau préfecture mais de région. Donc bon, ça laisse entendre qu'on pourrait faire plus et on aimerait faire plus.
Faire plus et plus vite à Wittenheim en Alsace, 15 000 habitants. Cette fois, le maire socialiste Antoine Homé, par ailleurs président du syndicat local de l'eau, a mis 2 ans. Avant de parvenir à démolir un château d'eau vide et vétuste construit à côté d'une voie ferrée.
2 ans d'autorisation administrative d'abord, et pourquoi pas, mais il y avait la présence d'hirondelles. Du coup, on a construit un hôtel à hirondelles. Pendant ce temps-là, on ne pouvait pas le démolir, ça a mis des mois. Ensuite, il fallait aussi discuter avec la SNCF sur le mode de destruction du château d'eau. Est-ce que c'était une explosion, une déconstruction, un grignotage? Ça a pris du temps. Et puis, je pensais que c'était bon, enfin. Et là-dessus, on nous a fait faire une nouvelle étude parce qu'il semblait que le château d'eau pouvait être favorable à la présence du chiroptère, c'est-à-dire de la chauve-souris qu'on n'avait jamais vue. Et on a dû construire un hôtel à chauve-souris. Et là, on nous a donné 3 mois pour démolir, sans quoi on était reparti pour une saison à cause de la nidification des oiseaux. Alors, je suis très attaché à la nature en ville, aux oiseaux, etc. Mais il y avait là un enjeu de sécurité. Comme il était désaffecté, les jeunes du village allaient faire ce qu'on appelle des escape games dans le château d'eau. Probablement, on aurait pu faire les choses de façon beaucoup plus rapide et efficace si l'autorité locale avait eu pleine compétence. Donc ce qu'il faut, c'est qu'on arrête d'être plusieurs sur le même sujet.
Et c'est ce que suggère avec insistance l'Association des maires de France. Depuis des années qu'on redonne de la liberté aux communes, qu'on renforce les pouvoirs locaux sur les plans réglementaires et financiers. À l'AMF, le vice-président André Léniel, maire PS d'Issoudun dans l'Indre, rêve même d'une inversion du sens de la décentralisation par rapport aux années 80.
Ça a d'abord été une décentralisation descendante de l'État vers les collectivités. Aujourd'hui, il faut que ça soit une décentralisation ascendante, c'est-à-dire que tout est décentralisé, sauf ce qui est réservé à l'État.
Mais compte tenu du contexte politique, les élus savent qu'il ne faut pas s'attendre au grand soir de la décentralisation. Et si le président de l'AMF, le maire LR de Cannes, David Lisnard, se réjouit de la volonté affichée par Sébastien Sébastien Lecornu. Il se refuse à déborder d'enthousiasme.
C'est une intention qu'on entend tous les 6 mois et qui, dans la réalité, se traduit très souvent par une recentralisation juridique, normative et fiscale. Enfin, écoutez, nous, on ne fait pas de procès d'intention. On sera au rendez-vous s'il y a une vraie volonté de mettre en place une décentralisation. Mais relancer cette idée de décentralisation, au moment où l'État est affamé d'argent, où l'État est surendetté, on sera vigilant pour que ce soit une décentralisation et pas un nouveau transfert de charges non financé, comme nous en subissons chaque mois.
Les associations d'élus appellent Sébastien Lecornu à donner de premiers signes de concrétisation de son engagement dès le projet de loi de finances pour 2026.
Alors, Sébastien Lecornu n'est effectivement pas le premier locataire de Matignon à promettre un nouveau mouvement de décentralisation, mais les associations d'élus ont le sentiment que derrière les annonces précédentes, rien n'est jamais vraiment venu. Comment l'expliquer ? Rosalie Lafarge a posé la question à Romain Pasquier, directeur de recherche au CNRS et à Sciences Po Rennes. Il est l'auteur notamment du dictionnaire encyclopédique de la décentralisation, publié en 2017 chez Berger Levrault.
Il y a beaucoup de veto et de freins institutionnels à la décentralisation. Ça a été dit, l'État français a été construit verticalement, du haut vers le bas, et donc les administrations centrales, mais aussi toute une série de parties prenantes, syndicats, forces vives, sont habituées à cette centralisation. Et donc si vous engagez une inversion de logiciel, c'est-à-dire que vous êtes dans un logiciel girondin, du bas vers le haut, beaucoup d'acteurs ont à perdre. En tout cas, ils n'ont pas envie de changements qui vont bousculer des habitudes, des statuts. Donc, comme souvent dans les politiques publiques, entre le grand soir et l'inertie, c'est l'inertie qui l'emporte.
On parlait d'inverser le logiciel de la décentralisation, comme le dit le socialiste André Léniel dans le reportage, d'une décentralisation descendante de l'État vers les collectivités à tout est décentralisé, sauf ce qui est réservé à l'État. En dehors de toute considération politique, est-ce que sur le papier, c'est envisageable en France ?
Il faudrait sans doute une modification de la Constitution, mais c'est sans doute envisageable d'appliquer véritablement le principe de subsidiarité, c'est-à-dire de dire que toutes les compétences non régaliennes, c'est ce qu'il essaye de dire, sont exercées de droit par les collectivités territoriales. Et donc, les compétences régaliennes, mais à nous de dessiner quelles sont les compétences régaliennes, c'est l'État central qui les exerce. J'y ajouterai un élément important. Moi, je pense qu'il faut aussi laisser liberté dans chaque région aux collectivités territoriales pour qu'elles se répartissent de manière ascendante les compétences. Ce n'est pas au législateur de dire un tel dans telle ou telle région, vous exercerez telle compétence. Il y a des grandes différences aujourd'hui, notamment liées à la transition écologique. Donc, ça serait aussi un exercice démocratique que de dire le principe de subsidiarité, le non régalien, eh bien, vous vous le répartissez entre communes, départements et régions à partir du terrain.
Donc, compte tenu, en plus du contexte politique et budgétaire, les élus ont raison de ne pas s'attendre à ce grand soir?
Je pense que de toute façon, la responsabilité de la dette, elle est collective. Donc, il va falloir trouver les moyens, effectivement, de ralentir la croissance de la dépense publique. Et je pense qu'on peut y arriver si on arrive à faire des choix. Il y aura aussi sans doute des choix difficiles du côté des élus. Il y aura sans doute des fusions, peut-être, de collectivités à opérer. Il y aura aussi des suppressions d'agences à opérer et un partage de la norme plus clair entre, d'un côté, le législateur et des collectivités territoriales qui auront sur le terrain des possibilités avec un pouvoir réglementaire renforcé de mener de A jusqu'à Z des projets dans le non régalien, ce qui évitera les témoignages qu'on a eus dans votre reportage.
L'Association des maires de France explique qu'il y a depuis quelques années un recul massif de la décentralisation ou alors des transferts de charges non compensés. Est-ce que c'est un sentiment ou une réalité ?
Alors, sur l'aspect financier, c'est une vraie réalité. Depuis le début des années 2000 et les débuts où le gouvernement Lionel Jospin s'est attaqué à la taxe professionnelle, tous les gouvernements de gauche comme de droite ont recentralisé les finances publiques en transformant la fiscalité locale en dotation d'État ou en part d'impôt national, c'est-à-dire que les collectivités territoriales n'ont plus la main. Dans un pays qui est quand même centralisé sur la norme, si vous n'avez plus une certaine liberté à dépenser, vous êtes pieds et poings liés. Donc effectivement, on assiste à une recentralisation depuis 20 ans.
On entend les maires raconter à quel point l'action publique au quotidien est freiné, ralenti par ce trop-plein de normes, d'autorisations à demander à de trop nombreux guichets qui ne se parlent pas forcément entre eux. Comment en est-on arrivé là, finalement ?
Eh bien, parce que on a empilé, on a accumulé, plutôt que de simplifier. On a vu énormément de réformes de l'administration de l'État. Pensez dans les années 2007-2008, la fameuse révision générale des politiques publiques avec Nicolas Sarkozy et François Fillon. Eh bien, ils nous ont créé des agences. Il y a eu pléthore d'agences pour soi-disant mieux gérer l'argent public. Et en fait, ça a contourné les préfets et l'administration préfectorale. Même chose sur les collectivités territoriales. On a évidemment trop de communes en France. On a 35 000 communes, c'est-à-dire autant de communes que les États-Unis, si vous voulez. 40% des communes de toute l'Union européenne. Plutôt que de rationaliser la carte, inciter à fusionner dans un esprit, on va dire, intercommunal, on a créé un nouvel échelon, l'intercommunalité. Et depuis quelques années, communes et intercommunalité se regardent en chien de faïence. Donc là, il n'y a pas forcément non plus toujours beaucoup de coopération. Donc que ce soit du côté de l'État ou des collectivités, à travers des financements croisés, à travers une hyper-normativité aussi du législateur, eh bien, on est face à une embolie du système. Tout le monde le constate, la Cour des comptes, les universitaires, les acteurs sur le terrain, mais personne n'arrive à trouver de voie de passage pour réformer.
En quoi Sébastien Lecornu a plus ou moins de chances d'y arriver que ses prédécesseurs ?
Il a ni plus ni moins. Je pense que ça va être très difficile pour lui. Je pense que c'est un vrai décentralisateur. Il était à l'origine du grand débat lorsque Emmanuel Macron était pris dans la nasse des Gilets jaunes. Il connaît bien, c'est un élu local avec une longue expérience. Après, il est comme les autres. Il est comme François Bayrou, comme Michel Barnier. Il n'a pas de stabilité et il le dit lui-même, il est le Premier ministre le plus faible de la Ve République.
Romain Pasquier, directeur de recherche au CNRS, répondait à Rosalie Lafarge avec Nicolas Delmas à la technique. Maire pour Pourquoi faire, notre rendez-vous hebdomadaire consacré aux municipales, à retrouver aussi sur franceculture.fr et sur l'application Radio France.